les bateaux qui jettent les pavés. Des réserves quant à la question d'angle pour le canapé. J'ai des doutes sur la notion de longévité, sur la remise à flot de la crème renversée. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des hommes, des carrés, des allongés. Est-ce que vous en avez? Des devises, des pensées, de l'assise du cœur. J'ai des doutes sur l'heure à laquelle tu viens de rentrer. La certitude de t'avoir si fort désiré. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez vu? Je milite au parti zombie. Je milite mais je m'ennuie. J'ai la détente sensible, l'étiquette fragile, le champagne douce. J'honore la passion bulle sans une seule virgule. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des rêves de douceur éveillés. Le goût du danger. Des routes à prendre ou à laisser. Est-ce que vous en avez? Du réseau, des rougeurs, des nerfs d'acier. Est-ce que vous en avez? Des...
Et sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste, c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et aujourd'hui, nous sommes en présence de André Bitton du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie. Bonjour André.
Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un certain nombre de thèmes ayant trait en gros à la crise de l'hôpital, l'hôpital général, la crise des urgences, mais également évidemment la crise de l'hôpital psychiatrique, avec une nouvelle issue de la presse, 2-3, et une jurisprudence de la Cour de cassation sur la possibilité pour les personnes qui sont sous mesure de curatelle et qui sont hospitalisés sans leur consentement, de faire appel d'une décision du JLD sans que l'avocat soit le rédacteur de l'acte d'appel. Enfin, de la déclaration d'appel, hein, pas la procédure elle-même, mais la déclaration. Donc alors, tout d'abord, une nouvelle quelconque par rapport à la dernière émission où j'intervenais sur le fait que la France, en matière de pénurie de singes macaques, pour les essais de médecine, les essais scientifiques, s'en tire pas trop mal, puisque en matière de psychiatrie santé mentale, les cobayes, c'est les malades eux-mêmes. C'est une véritable catastrophe. Mais bon, par décision du tribunal administratif du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Strasbourg, cette juridiction a donné gain de cause sur la demande d'annulation de l'agrément d'un institut en Alsace qui gère et qui, qui gère pour la France ces singes primates. Donc le tribunal administratif a donné gain de cause à une société pour la protection des droits des animaux, qui proteste contre le fait que ces essais aient lieu sur des animaux.
Oui.
Bon. oui, c'est vrai. Donc alors, si bien qu'on s'aperçoit qu'en fait, en la matière, les droits des animaux sont plus protégés que les droits des malades mentaux. Vous voyez. Alors moi, je pense que, en fait, c'est cette situation, bon, je dis ça ironiquement, ça soulève un véritable drame. C'est un véritable drame. À savoir, le fait que l'on considère que les personnes suivies en psychiatrie, et plus précisément chronicisées en suivi psychiatrique, ne sont pas vraiment des êtres humains.
Oui.
C'est carrément le problème que ça soulève. Alors, par ailleurs, une dépêche, et là j'en viens aux actualités de presse, de la dépêche du Midi du 20 février 2024, donne une nouvelle qui est quand même intéressante parce que c'est assez original. Le titre, c'est « Tu peux mourir, un soignant accusé de maltraitance sur des patients handicapés dans un hôpital des Landes ». Et cet hôpital des Landes, c'est pas n'importe lequel, c'est Sainte-Anne-des-Landes, qui a été visité, hein, je crois, par le contrôle général des privations de liberté, qui a été quand même mis en cause. Selon une enquête de Sud-Ouest, un aide-soignant aurait exercé des maltraitances sur des patients handicapés du service de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne de Mont-de-Marsan, Landes. Il serait resté plusieurs mois au sein de l'établissement malgré des signalements de témoins. Alors, ce qui est rare dans cette affaire, parce que généralement, il y a un étouffoir là-dessus, c'est que ce sont ses collègues qui l'ont signalé et multisignalé jusqu'à ce qu'il soit dégagé. Et comme par hasard, la direction de l'hôpital l'a maintenu. Et il a pu faire son circuit, vu le manque de personnel, dans plusieurs établissements. Et ça, c'est un véritable problème. Hein. C'est même récurrent au travers de la France. Bien. Donc, je lis l'article hein, rapidement. Maltraitant physique, moquerie, insulte, un aide-soignant de l'hôpital Sainte-Anne de Mont-de-Marsan est soupçonné d'avoir commis des actes de maltraitance à l'encontre de patients polyhandicapés, révèle une enquête de nos confrères de Sud-Ouest mardi 20 février, des actes qui auraient, selon le quotidien, été passés sous silence. Comme d'habitude. Le journal a pu enquêter pendant plusieurs semaines au sein de l'établissement. Les faits remontent à début 2022. 2 ans en arrière, et se déroule au sein de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne-Mont-de-Marsan, au sein de l'unité ARIA. Un aide-soignant se fait particulièrement remarquer. Alors, citation de ses déclarations, « Je vais faire du cassage de patients, j'adore ça. »
Ah oui.
Lance-t-il, par exemple, à ses collègues avant d'intervenir auprès d'un patient en crise. L'homme s'adresse régulièrement aux résidents de manière violente, notamment lors des repas, « Ferme ta gueule, tu peux mourir, l'entend-on crier ?» Toujours selon Sud-Ouest, cet agent a exercé au sein de l'établissement pendant plusieurs mois, protégé grâce à un noyau de copinage, affirme le syndicat Force ouvrière de l'hôpital dans un flyer datant du premier semestre 2023, un comportement qui a tellement choqué que les autres unités ont fini par refuser de travailler avec l'aide-soignant. La portion de phrase importante, cet agent a exercé au sein de l'établissement pendant plusieurs mois, protégé grâce à un noyau de copinage. Et là, par exception, il est dénoncé par un syndicat. Parce qu'en général, les syndicats couvrent, hein, ça se traite en interne et on étouffe ça. Hein. Violence physique et psychologique. Parmi les faits graves qui lui sont reprochés, des plaquages au sol, des bousculades, des moqueries, des violences physiques et psychologiques commises sur les patients handicapés de l'établissement. Une fois, il a été surpris sur l'un des patients, limite en train de l'étouffer, rapporte des témoins qui ont souhaité rester anonymes. Or, il faut savoir que si des patients chroniques dans les établissements psychiatriques décèdent, il y a une enquête préliminaire, mais c'est clos. Hein, c'est clos. Les patients sont réputés, enfin, les morts en question sont réputés morts de mort naturelle. Alors l'ARS de Nouvelle-Aquitaine affirme n'avoir reçu aucun signalement en 2022 concernant ces faits de maltraitance, ajoutant que le dossier avait été traité en interne par la direction de l'établissement. Mais, et je fais une incise, quand bien même il y aurait une remontée à l'ARS, les ARS étouffent. Donc on est bien. Le directeur de l'hôpital lui a refusé de commenter l'affaire. C'est finalement des lanceurs d'alerte qui ont signalé les faits au syndicat UNSA. Et ces lanceurs d'alerte, comme le prouve l'affaire de Mathieu Bellassène et quelques autres, lancent ces alertes à leurs entiers risques et périls, au risque de leur carrière. Selon l'UNSA, les employés ayant lancé l'alerte ont subi des brimades, se retrouvant mis au placard, ou même écartés de certains projets, des faits confirmés par Force Ouvrière qui assure que les faits de maltraitance ont été minimisés par la cadre supérieure de l'établissement. Il n'y a pas eu d'eau cassée. C'est pas grave.
Oui, oui.
Aurait-elle déclaré au sujet de l'affaire ? Le soignant a finalement été mis à pied le 21 septembre 2022. Mis à pied, mais normalement, ça aurait dû être une suspension avec effet immédiat à titre conservatoire. Une convocation en urgence du conseil de discipline et la radiation. Alors ça c'est quand même intéressant parce que c'est rare que ça sorte, et ce qui sort généralement dans la presse ainsi que les dispositions réglementaires, législatives, etc., c'est protéger les professionnels des violences des patients.
Tout à fait, oui.
Bon, donc quelque part, c'est une très bonne chose que ça sorte. Et là, ce qu'on voit, comme par hasard, il se trouve que la presse régionale couvre mieux ce genre de choses que la presse nationale. Et d'ailleurs, c'est pas la peine de faire confiance à la presse de gauche. La presse de gauche, elle est antenne syndicale. Ça pose problème. Ça pose de véritables problèmes pour sortir de... Sur la région parisienne, de mon expérience des contacts presse, ce genre d'histoire était nettement mieux couvert par Le Parisien que par des organes de presse engagés. C'est ennuyeux, quand même. Mais bon, il en est ainsi. Alors, revenons un peu sur la crise de l'hôpital. Aux urgences psychiatriques de Purpan, il y a une douzaine de jours, il y a eu des faits graves. Il y a eu deux viols, une personne s'est suicidée. Bon, bref, le nouveau ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, ancien président de la Fédération Hospitalière Publique, est intervenu en annonçant des mesures. Les syndicats sont assez réservés. Donc, Le Monde a consacré une analyse à cela par Camille Stromboni le 25 février 2024. Le suicide d'un patient aux urgences psychiatriques à Toulouse provoque l'émoi. L'homme de 49 ans sur un brancard depuis 10 jours. Ça me rappelle la recommandation en urgence de la CGLPL à Dinazan en 2017 à propos des urgences du CHU de Saint-Étienne. Donc, sur un brancard depuis 10 jours, s'est donné la mort. Le 14 février, il attendait un lit pour être hospitalisé en psychiatrie. Et ben là, on en est là. D'ailleurs, c'est ce que dit Mathieu Bellassène en tant que psychiatre. Moi, ça fait longtemps que je le dis autour de moi aux gens qui sont dans le périmètre. N'allez pas aux urgences. Débrouillez-vous comme vous voulez. Mais si vous êtes connu pour une actualité ou un passé psychiatrique, passez par d'autres circuits. 10 jours après le suicide d'un patient aux urgences psychiatriques de l'hôpital Purpan, CHU de Toulouse, le 14 février, l'émoi chez les soignants ne retombe pas. L'homme de 49 ans sur un brancard depuis 10 jours attendait un lit pour être hospitalisé en psychiatrie. Ce décès est intervenu après plusieurs autres événements graves aux urgences toulousaines début février, une suspicion de viol et d'agression sexuelle de 2 patientes. Sur place, le 20 février, le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, ministre délégué, je reviendrai là-dessus, a annoncé une mission prochaine de l'IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales, et confirmé l'ouverture de 15 lits d'hospitalisation de post-urgence promises par la direction du CHU et l'ARS au lendemain du drame. Le ministre a également appelé à des mesures fermes en direction du secteur privé qui représente les 3/4 de l'offre de psychiatrie du territoire. Il y a beaucoup de cliniques dans cette région, et de cliniques UP. Une cellule territoriale de régulation doit désormais permettre de garantir un lit d'hospitalisation aux patients qui en ont besoin. Mais ça, c'est leurrant. Quand des lits sont réservés de nos jours, c'est pour les soins sous contrainte. C'est pour ça que les gens vont en clinique. D'ailleurs, la FHP, le président de la FHP et les responsables de la Fédération hospitalière privée ont répliqué en disant « Mais comment vous foutez de nous ?» Au contraire, c'est le privé qui assume de pallier les manques de la psychiatrie publique. Mais, et il a rappelé cela en bonne et due forme, les cliniques privées, les établissements privés accueillent énormément de personnes hospitalisées, hein, bien, mais accueillent en libre.
D'accord.
Il n'y a que 4 ou 5 cliniques psychiatriques privées qui sont habilitées à accueillir les gens sous contrainte en France. Et là, c'est un véritable appel de pied du public vers le privé pour que, pour que les groupes privés investissent les soins sous contrainte. Et là, ce qu'on sait, enfin, on le sait à travers la France, comme par hasard, là où des lits ferment dans des provinces, un groupe privé établit une clinique de gérontopsychiatrie. Donc, cette protestation, et puis en plus, il faut savoir que le prix de journée remboursé par la Sécurité sociale aux cliniques privées est nettement inférieur à ce qui est remboursé pour un lit de psychiatrie publique.
Ah bon ?
Oui. Mmh. Oui, parce que ils ont un tarif de base. Alors ils se compensent comme ça. Tu rentres, c'est conventionné, d'accord, tu es admis. Tu veux quoi que ce soit de supplémentaire, c'est tarifé. Et d'autre part, il y a d'autres choses complètement aberrantes, mais bon. Donc voilà, donc ça c'est l'état de cette polémique. Ah oui, citation, les soignants ont vécu 2 semaines horribles, rapporte Julien Terrier, secrétaire de la CGT dans l'établissement. Ils se sentent forcément coupables, c'est leurs patients, même s'ils n'y sont pour rien, mais aussi en colère parce que ça fait des années qu'ils alertent sur cette situation. Plusieurs procédures pour danger grave et imminent ont été déposées ces dernières années, rappelle le responsable syndical, qui dénonce face au délabrement de la psychiatrie publique des demi-mesures qui ne vont pas au fond du problème. L'éternel problème là-dedans, c'est ce qu'a soulevé Mathieu Bellassène dans un texte qu'il a déposé à la mission parlementaire d'information sur les urgences psychiatriques dirigée par la députée Sandrine Rousseau, écologiste, qui semble-t-il n'est pas compétente sur cette question, mais bon, c'est que pourquoi les gens vont aux urgences ? Si les gens vont aux urgences, c'est qu'avant cela, il n'y a plus rien ou plus grand-chose. Et le problème, c'est cela. Alors, donc, les annonces du ministère. Alors, tout d'abord, depuis le remaniement ministériel et la ministre Chapeau, Travail, Santé, etc., Madame Vautrin, il n'y a plus de ministère de plein exercice de la santé, il y a un ministère délégué. Donc, ça veut dire que, comme d'habitude, en fait, la santé est reléguée à un secrétaire d'État, bien, et n'est pas considéré comme un ministère important. Et ce, depuis le début. Alors, c'est à souligner. On est revenu ministère délégué, ça veut dire que c'est un secrétaire d'État. Hein. Donc, après le drame survenu aux urgences, c'est important à dire. Pourquoi ? Parce que cela veut dire, en quelque sorte, que, oui, la santé, bon, ben, d'accord, bon, ben, c'est secondaire dans l'organisation hiérarchique de...
On pourrait dire qu'elle a son pouvoir autonome, en quelque sorte.
Non, c'est l'inverse. Oui. Ce qu'on pourrait dire, c'est que, alors là, on livre ce secteur aux lobbies. C'est plutôt les lobbies qui sont autonomes.
Oui.
c'est plutôt ça. C'est-à-dire que si c'était un ministère hiérarchiquement de pleine importance, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ministères régaliens, c'est-à-dire il y a une hiérarchie en fait dans les appareils d'État. Alors bon, il y a le président de la République, le Premier ministre, les ministères régaliens, c'est l'impôt, l'armée, la police, l'éducation. Mmh. Mais en reléguant en un secrétaire d'État ou un ministère délégué à la santé, l'on dit que à celles et ceux qui ont la main sur ce terrain de diriger.
Voilà.
C'est ennuyeux. C'est ennuyeux, hein. Quand on connaît l'intérêt du dispositif, c'est ennuyeux.
Ça peut tendre à une déjudiciarisation, du coup, peut-être, puisque...
À une médicalisation à outrance, pour la psychiatrie. Alors que la psychiatrie est un terrain complexe qui n'est pas seulement médical. Alors maintenant, la déjudiciarisation, il faut bien voir, c'est un drame. La judiciarisation en France s'est immédiatement accompagnée d'une neutralisation du potentiel subversif de cela par les corporations.
Oui.
Donc, Et avec la judiciarisation, les acteurs du terrain ont déjudiciarisé.
Oui, on en a souvent parlé.
En parallèle. Donc, on est tous là sans plaindre. Donc, je reprends. Après le drame survenu aux urgences psychiatriques du CHU de Toulouse le 14 février, le ministre chargé de la Santé et de la Prévention, M. Frédéric Valletoux, après s'être rendu sur place, annonce plusieurs mesures pour améliorer sans délai. Sans délai, il faut voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de délai fixe. Ça pose problème. Les conditions de prise en charge dans l'agglomération toulousaine. Alors, citation du ministre, « La situation que je constate ici à Toulouse sur la prise en charge des urgences psychiatriques est inacceptable et en tout point contraire à la feuille de route qui m'a été fixée par le président de la République et le Premier ministre. Sa feuille de route vise à établir un fonctionnement basé sur la coopération au sein des territoires, le décloisonnement public-privé et un système de soins respectueux des patients et de ses personnels. Sa mise en œuvre sans délai est une de mes priorités. » Alors, donc, les mesures. Arrêt immédiat de toute hospitalisation dans l'actuel lieu dédié aux urgences psychiatriques, qui doit retrouver sa vocation initiale, à savoir l'accueil des consultations et l'orientation des malades. Mise en place d'une cellule territoriale de régulation des urgences psychiatriques et hospitalisation afin de garantir un lit d'hospitalisation à tous les malades reçus aux urgences psychiatriques du CHU de Toulouse et nécessitant une hospitalisation. Ouverture au CHU de 15 lits de crise en post-urgence, recrutement immédiat du personnel nécessaire afin que plus aucune hospitalisation ne se déroule dans des locaux inappropriés. Ouverture immédiate au sein du CHS Gérard Marchand, des lits aujourd'hui fermés et recrutement intensif des personnels nécessaires. Deux lits d'hospitalisation seront désormais réservés pour accueillir les malades nécessitant une HSC. Participation effective et immédiate de tous les acteurs publics comme privés à la prise en charge des urgences psychiatriques et des soins sans consentement, le ministre a réaffirmé à cet égard son souhait que des mesures fermes, pouvant aller jusqu'à la suspension de certains financements, soient prises à l'encontre de tout acteur, sous-entendu privé, qui ne prendrait pas pleinement part à l'accueil des urgences psychiatriques sur l'agglomération. Dès aujourd'hui, tout refus d'hospitalisation devra ainsi faire l'objet d'une explication motivée auprès de l'ARS. Au regard de la dynamique démographique de l'agglomération toulousaine, le ministre a par ailleurs souhaité qu'un renforcement des moyens de la psychiatrie soit étudié pour une prise de décision rapide. Il pourra s'agir de renforcer ou de redécouper les secteurs existants ou de créer un ou plusieurs secteurs supplémentaires. Il faut savoir que depuis 2009, les secteurs ont été regroupés en pôles. En pôle géographique, c'est-à-dire en unité beaucoup plus vaste. Donc, c'est. Alors, d'autre part, le ministre a annoncé. Le ministre a annoncé des mesures dont la réalisation nécessaire nécessitera quelques semaines, parmi lesquelles la création d'une équipe mobile d'intervention. Voilà, ça s'est réclamé depuis longtemps. Concernant le secteur privé, sa participation effective à la sectorisation conditionnera en septembre prochain l'octroi de futures autorisations d'activités de psychiatrie et des financements associés. Donc on dit, de façon autoritaire, maintenant il faut voir ce que ça donne, au privé, vous prenez votre part dans la sectorisation psychiatrique. Alors eux en face, ils disent nos financements, ça va pas, nos journées d'hospitalisation sont pas assez financées, etc., etc. Donc comment ça va se terminer? Un peu comme en Italie, quoi. Si on continue la fermeture des lits, des cliniques ouvrent et on ne peut accéder à quelque chose de décent au niveau hospitalisation quand on demande l'hospitalisation que si on a de quoi payer. On est couvert par une mutuelle, suffisamment couvert. Alors, pour garantir que ces annonces soient immédiatement suivies d'effet, le ministre a annoncé l'arrivée dans les prochains jours d'une mission de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui contrôlera les conditions d'organisation de la psychiatrie sur l'agglomération et qualifiera la nature des responsabilités des dysfonctionnements à la lumière notamment des derniers événements indésirables graves. Un comité de suivi sera par ailleurs réuni chaque semaine par l'ARS avec la participation de tous les acteurs. Ça, on voit que pour une large partie, ça revient à étouffer la situation. Quand il y a des comités de suivi qui se réunissent toutes les semaines dans les bureaux de l'ARS, ça veut dire qu'il y a une réunionnite qui est en place pour satisfaire l'ego de tous les participants, et puis c'est tout. Mmh. En gros, c'est ce que ça veut dire. Bon. Donc, et par ailleurs, il y a une chose que je souligne, c'est que sur cette crise des urgences, si je prends par exemple le dernier article publié hier ou avant-hier dans Mediapart par Caroline Coq-Chaudorge, les médias insistent sur les décès indésirables aux urgences générales Et comme par hasard, alors que c'est en psychiatrie qu'il y a des drames les plus massifs, il passe en général sous silence, ou n'en parle que très accidentellement, des décès en matière psychiatrique.
Oui.
Et ça, mais ça, c'est comme d'habitude, ça a toujours le même sens. La vie, la mort de personnes parquées en psychiatrie n'a aucune importance. Moi, un jour, un journaliste me l'a dit très carrément. Hein. Alors après, il y a une quinzaine d'années. Après, j'ai clos le contact avec ce journaliste freelance qui a publié sur ce terrain. Mais finalement, je trouve que c'est pas plus mal que les choses se disent. Il m'a dit, écoutez, nous, au niveau de la presse et des publications, que des malades mentaux meurent, on s'en fout. Voilà. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et là, je pense que ça permet de comprendre. C'est un angle de lecture qui permet de comprendre l'arriération française en matière de droit des malades en psychiatrie. Si on veut comprendre ça, on passe par là. Alors, une autre nouvelle. On apprend par un article de Libération d'Éric Favreau du 14 février que la docteure Delphine Glachan, ancienne présidente de l'Union syndicale de la psychiatrie, qui était chef de pôle dans la banlieue parisienne dans le 94, sur Nogent-sur-Marne, a une affectation en Bretagne dans le Finistère, où elle peut quand même exercer de façon suffisamment correcte avec des moyens au titre de la psychothérapie institutionnelle. Si bien qu'elle fait état qu'elle est satisfaite du poste qu'elle occupe et de ce qu'elle peut faire en tant que chef de pôle, ce qui est assez rare pour être souligné. Voilà, pause musicale.
Pause musicale avec Armel Dumoulin. Il pleut sur mes parents.
Il pleut sur mes parents. Il neige sur mes frères. Il pleut sur les parents, il neige sur les frères. Moi je ne suis que deux jambes qui vont vers la frontière. Et je leur aboie ça à ces jambes-là, je leur aboie. Chaque fois qu'elles ne marchent pas, aurions-nous donc si peu appris? Nous vivions alors en théorie, nous vivions ensemble. En théorie. Mais il pleut sur mes parents. Il neige sur mes frères. Il pleut sur les parents. Il neige sur les frères, et moi je suis cette âne sabot frappant la poussière. Et je lui aboie ça, à cette âne-là je lui aboie. Chaque fois qu'il n'avance pas, aurions-nous donc si peu vieilli? Nous vivions alors bien à l'abri, nous vivions alors. Il neige sur les frères. Le monde est un enfant pour qui l'on ne fait pas l'affaire. Et je lui aboie ça, à ce monde-là je lui aboie. Quand il ne me lâche pas, aurions-nous donc si peu de prix? Nous ne vivons qu'ici, en théorie. Vivons qu'ici et qu'un après-midi. Mmh. Il pleut sur mes parents, dans un champ. Il neige sur mes frères, sous quelque hiver. Moi je ne suis que deux jambes qui vont vers la frontière. Pluie sur mes parents, neige sur mes frères. Mais on a vu des poissons remonter le cours de la rivière.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Aujourd'hui avec André Bitton du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie.
Alors donc, je reprends mon intervention. Il y a une actualité parlementaire qu'il faut surveiller, c'est le projet de loi contre les dérives sectaires qui comporte un article 4 qui tend à pénaliser, donc à rendre, ça devient donc un délit, la provocation ou la publicité à l'arrêt des traitements qui ont été validés scientifiquement, bon, ce qui a un impact pour la psychiatrie. La hauteur de condamnation prévue pour cette provocation ou incitation forte à l'arrêt de traitement validé scientifiquement, c'est 1 an de prison ferme, 75 000 euros d'amende. Avec, pour les praticiens, les médecins qui pratiquent ce genre d'abstention, signalement au Conseil de l'Ordre pour suspension d'exercice, pour interdiction d'exercer. Donc c'est quand même ennuyeux parce que c'est un peu en avant très important vers une contrainte aux soins généralisée. C'est-à-dire, c'est un gain, en fait, ça, alors, il doit y avoir une commission mixte paritaire qui doit, composée de sénateurs et députés, qui doit statuer là-dessus. Ils ne tomberont pas d'accord, puisque le Sénat n'est pas d'accord avec ce texte et a profondément remanié cet article avant que ça passe en Assemblée nationale. Donc le texte va revenir en navette devant l'Assemblée nationale pour adoption définitive. Et donc ensuite, il devrait y avoir un envoi pour examen de constitutionnalité au Conseil constitutionnel par voie parlementaire. Donc on verra bien, donc ça, dans les semaines qui suivent, ça va être une actualité. Alors, dans nos actualités, on signale une décision de la Cour de cassation première civile qui statue habituellement sur le contentieux de l'hospitalisation sans consentement du 31 janvier 2024. Assez intéressant. Dans cet arrêt, cette décision, en fait, du 31 janvier 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le majeur sous curatelle n'a pas besoin de l'assistance de son curateur pour interjeter appel de la décision statuant sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant. Alors ça, c'est une véritable bouteille à l'encre. Et en fait, qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, cela veut dire que dans le contentieux du contrôle des mesures de soins sans consentement, que ce soit en saisine facultative ou que ce soit à la base ou que ce soit dans le contrôle obligatoire, une personne sous mesure de protection doit être obligatoirement obligatoirement assistée par son curateur ou son tuteur. Et celui-ci doit être systématiquement informé des audiences et des décisions. Bien. Or, cela, c'était un pas en arrière par rapport aux anciennes dispositions qui avaient précédé la réforme des mesures de tutelle de mars 2007. Avant cette réforme, en matière de contentieux de l'internement psychiatrique, il était admis qu'une personne internée en milieu psychiatrique, hospitalisée sans son consentement en milieu psychiatrique, ou même en libre et retenue finalement sous contrainte, pouvait saisir le juge des libertés de la détention, anciennement le président du tribunal de grande instance, librement, sans en aviser son curateur, précisément pour pouvoir de façon autonome essayer de se défendre. Bien. Or, cette autonomie de la personne même, quand la personne est sous curatelle, pas sous tutelle. Hein. La tutelle, oui. C'est une représentation complète. Sous curatelle, a été cassée par la réforme de mars 2007, qui a refondu le système des tutelles et curatelles, laquelle réforme de 2007 avait été prise en prévision de la hausse continue du nombre de mesures de protection en France et pour limiter cette hausse. Et en fait, l'effet paradoxal de cela, hein, c'est que, au contraire d'une baisse ou d'une limitation, depuis, les mesures de protection ont explosé. Et non seulement ont explosé, mais au plan statistique, c'est carrément les mesures de tutelle qui se sont retrouvées en hausse par rapport aux mesures de curatelle, ce qui est quand même un comble. Et là, on voit que c'est la précarité qui ronge, le trafic de stupéfiants, tout ça, le fait... Les jeunes générations montent, des gens sont livrés aux marges de la société, explosés aux marges de la société, on distribue quelques minima sociaux, les gens ne sont pas forcément en état de gérer cela, et après on voit les gestionnaires boulonner tout cela, et visser des populations, des gens en situation d'exclusion dans une ignominie sans frein. C'est affreux, ces mesures-là. Donc alors, quand on revient là, avant la loi du 5 juillet 2011 de judiciarisation systématique des internements psychiatriques, les personnes sous curatelle pouvaient librement saisir le juge des libertés de la détention. Et en cas d'appel, l'appel était très compliqué à l'époque, hein, c'était une saisine facultative, en cas d'appel, il n'y avait pas nécessairement besoin de l'assistance du curateur. Il était prévu dans ce cas, et c'était dans la jurisprudence, qu'en matière de contestation d'un internement psychiatrique, le majeur sous curatelle pouvait se défendre puisqu'on n'était pas en matière patrimoniale. Il ne s'agissait pas de son patrimoine. La matière patrimoniale, c'est quand on est sur du patrimoine. Mais quand quelqu'un défend sa liberté, on n'est pas sur du patrimoine. Bien. Eh bien, la loi du 5 juillet 2011, qui est une loi de tutelle, hein, c'est finalement une loi paternaliste, avait fait un pas en arrière, puisqu'il était prévu dans l'article 3211-12-2 de cette loi, dont je donne lecture, que à l'audience du juge des libertés, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi ou désigné au titre de la JIS. Et là, non seulement on avait là-dedans le fait, ça c'est au niveau de l'audience, le fait que lorsqu'une audience de contrôle judiciaire d'une hospitalisation sans consentement d'une personne sous curatelle est mise en place, le curateur doit être prévenu, même si ce curateur est le demandeur à l'hospitalisation quand même, hein, ça pose problème, mais également un avocat est obligatoirement là, non seulement qui représente la personne, mais qui l'assiste. Et c'est l'essence de cette décision de la Cour de cassation que de faire une différence entre la représentation et l'assistance.
Oui.
Voilà. Bon. Donc, en fait, ce que vient rétablir cette décision de la Cour de cassation du 31 janvier 2024, c'est que le majeur sous curatelle n'a pas besoin d'être assisté pour faire appel d'une décision de rejet par le JLD d'une demande de mal-levée. Il est juste représenté par un avocat, parce que tous ceux qui passent au contrôle JLD ou en cours d'appel sont représentés par avocat, mais pas assistés.
Oui.
Et donc c'est la casuistique, enfin le déploiement de cet argument, différence entre être représenté par un avocat et être assisté. Quand vous êtes assisté, vous n'avez plus d'autonomie.
Oui, de toute façon, il me semble qu'une personne sous curatelle peut agir en justice.
Alors, justement, et ça, c'était le pas en arrière. Justement, non, ça, c'est l'ancienne conception qu'on avait.
Oui.
Le pas en arrière de la loi de 2007, c'est d'abord instauré. Moi, je me rappelle que j'en avais discuté avec un magistrat qui avait siégé dans la commission paritaire du ministère de la Justice pour faire cette réforme, le magistrat Fossier, Monsieur Fossier, qui était un commentateur habituel. Et je lui avais dit, c'est un pas en arrière, hein, c'était
d'accord.
En 2007. Donc, cet article 468 du Code civil, le voilà. Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom. C'est l'interdiction des comptes pivots. Enfin, cette interdiction des comptes pivots, ça ne servit à rien. Moi, j'ai connu une personne sur laquelle sa pension était versée sur un compte pivot géré par son curateur. Donc, l'ensemble des mesures venait sur le compte pivot. Ça générait des intérêts qui n'étaient même pas redistribués. Tu vois. Alors, c'est la deuxième et troisième alinéa. La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, conclure un contrat de fiducie et faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Cette assistance par le curateur est requise pour introduire une action en justice où ils défendent. Alors ça présente un intérêt, c'est ce que m'avait dit le magistrat Fossier, M. Thierry Fossier, lorsqu'une personne sous curatelle est incarcérée, à savoir que si le curateur n'est pas prévenu de ce qui se passe, garde à vue, etc., etc., tout cela c'est nul, ça peut être frappé de nullité. Oui, d'accord, mais en matière d'internement psychiatrique, c'est un pas en arrière. Parce que la traduction de cela, c'est que, concrètement, le législateur ne s'est pas trompé là-dessus, la conséquence de cela, c'est qu'en matière de représentation obligatoire par avocat, l'on dit que la personne sous curatelle qui vient de prendre une décision de maintien en hospitalisation sans consentement n'a même pas ce droit de dire « je fais appel » sans que l'avocat et le curateur soient là dans la danse.
Enfin, c'est une protection qui devient négation
oui.
de la personne.
Mais tout à fait. Tout à fait. Alors là-dessus, le commentaire qui a été fait, c'est le commentateur habituel, c'est M. Cédric Hélène, un magistrat chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille, un magistrat en cours d'appel. Donc, au mois de juillet dernier, nous commentions dans ces colonnes une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation ayant précisé que le majeur placé sous mesure de curatelle n'a pas besoin de l'assistance de son curateur pour remettre en question la décision de maintien de soins psychiatriques sans consentement à son égard. Voilà, ça c'est déjà un premier pas. La Cour de cassation a rétabli en plusieurs étapes, avec le Conseil constitue d'ailleurs, en plusieurs étapes le fait qu'en matière d'internement psychiatrique, le majeur sous curatelle peut se défendre. Et pour cause, il est fréquent que le curateur soit demandeur de l'hospitalisation. Deux, il est ultra fréquent, si une personne protégée sous curatelle est hospitalisée sans consentement, que le curateur dise « c'est parfait, c'est ce qu'il lui faut ». Bon. Donc, quant aux avocats, il est connu chez les justiciables qu'il ne faut pas trop leur faire confiance. Bon. Nous en sommes désolés pour les gens de Rome, mais bon. Donc, à l'origine du pourvoi, on retrouve une situation débutant le 21 août 2022 par l'admission d'un majeur placé sous curatelle en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet de police de Paris. La mesure initiale, une hospitalisation complète, a été modifiée en un programme de soins qui a conduit par la suite à une nouvelle hospitalisation complète. Le préfet de police saisit le juge des libertés de la détention pour poursuivre la mesure, poursuite ordonnée le 1er septembre 2022. Le 12 septembre suivant, le majeur hospitalisé interjette appel. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le premier président de la cour d'appel saisi du dossier déclare irrecevable l'appel formé puisque le majeur n'avait pas été assisté par son curateur. Donc le simple mot de quelques lignes d'une personne sous curatelle adressée au greffe, au premier président, au greffe du premier président de la cour d'appel disant « je fais appel de la décision » n'était considéré même pas recevable parce que non signé ou non co-signé par le curateur. Mais le délai est quand même très court et une personne qui est maintenue sous traitement, enfin, etc., etc., c'est vraiment pas possible. Alors, l'intéressé se pourvoit en cassation en reprochant à l'ordonnance une violation de la loi dans la mesure où il pouvait interjeter appel sans l'assistance de son curateur. Le pourvoi aboutit, en effet, à la cassation de l'ordonnance du premier président pour violation de la loi. Nous allons étudier pourquoi. La recevabilité du pourvoi comme amorce de la solution au fond. Le problème de l'assistance du curateur qui était posé au moment de la procédure d'appel rejaillit lors du pourvoi en cassation, puisque le préfet de police avance l'irrecevabilité du dit pourvoi pour absence de l'assistance du curateur. C'est-à-dire même le fait que vous introduisiez un pourvoi n'est pas recevable parce qu'il n'y a pas le curateur là-dedans. Il arrive assez peu régulièrement que la question soit soulevée, de sorte que cette partie préliminaire de l'arrêt présente un intérêt certain. La première chambre civile trahit déjà la solution du pourvoi au moment de répondre à cette première interrogation procédurale. Par combinaison des articles 415-459 du Code civil avec l'article 3211-12, il faut en effet conclure que le pourvoi en cassation contre une ordonnance maintenant une mesure de soins psychiatriques sans consentement est un acte personnel que le majeur protégé peut donc conclure seul. C'est un acte personnel que le majeur protégé peut donc conclure seul. De même qu'est un acte personnel le fait d'accepter ou de refuser de faire partie d'un essai thérapeutique. Par exemple. Par conséquent, de même, pour la personne de confiance, c'est pareil. Une personne se curatelle peut devenir une personne de confiance. Oui. Par conséquent, le dit majeur vulnérable pouvait parfaitement introduire le recours sans l'assistance de son curateur. Ce motif des actes personnels est, nous le verrons, crucial en la matière. Dans un second arrêt rendu le 31 janvier 2024 et commenté dans ses colonnes de manière séparée, la première chambre civile a pu préciser également que le patient peut seul former une requête en main levée de la mesure sur le fondement de l'article L3211-12 des saisines facultatives du Code de la Santé publique, relever appel de la décision du JLD et s'en désister, y compris s'en désister. C'est-à-dire qu'il a été considéré par une autre décision de la Cour de cassation récente que le désistement d'un appel par une personne en soins sans consentement, quand bien même ce désistement est rétracté après quand un avocat est constitué pour préserver les droits procéduraux de cette personne, ce désistement a valeur. Donc c'est un acte opposable et qui ne peut pas être annulé pour cause d'insanité d'esprit, etc., etc. Donc on peut ainsi remarquer un tableau désormais complet autour de ces thématiques procédurales en matière de soins sans consentement. Cette autonomie de l'intéressé quant à l'assistance ou à la représentation de son avocat pour introduire le recours, interjeter appel ou se désister, se retrouve parfaitement dans la précision du pourvoi en cassation concernant le majeur sous curatelle et l'absence d'assistance obligatoire de son curateur. Savoir que, qu'il s'agisse de l'avocat ou du curateur, le majeur sous curatelle est autonome dans ce genre de procédure. C'est une bonne chose dans le contexte de cette partie du Code de la Santé publique où l'intéressé doit très rapidement pouvoir contester la décision le maintenant d'une telle mesure. Cette remarque juste pour la première instance et pour l'appel ne l'est pas forcément pour la cassation, car les soins psychiatriques sans consentement ont presque toujours cessé quand l'arrêt est rendu, ce qui explique les très nombreuses cassations sans renvoi en la matière. Donc nous l'aurons compris, le fond du pourvoi est déjà réglé avec les textes cités pour la question du pourvoi en cassation. Bon, voilà. Donc il y a cela, et donc cela rétablit en quelque sorte, un droit qui était auparavant consacré, notamment avec la loi du 30 juin 1838, mais également avec la loi du 26 juin 90, et qui avait été, mais fichu par terre. Et comme par hasard, on s'aperçoit que un droit positif qui concerne des personnes diminuées et vulnérables, sous prétexte de les protéger, sous prétexte de leur faire du bien, de les prendre en charge, on supprime ces droits. Et on a là l'essence du paternalisme français en la matière.
Thank you.
Bring the Hambone. C'était James Booker. Et c'est toujours Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la Fédération anarchiste et l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie.
Alors j'ai une dernière nouvelle, puisqu'on a encore un peu de temps. On devait être auditionné par la députée France Insoumise Élise Leboucher, qui est éducatrice spécialisée à l'EPSM de la Sarthe. Puis finalement, je n'ai pas voulu y aller, enfin ça s'est mal passé. Mais finalement, Natacha Guillet devrait quand même être auditionnée. On a demandé qu'elle le soit, puisqu'elle a des choses à dire sur la pérédance. Et l'hôpital psychiatrique de la Sarthe à Laune, qui était auparavant implanté en pleine ville du Mans, a été complètement sinistré. Hein, l'été passé, l'accueil a même fermé, faute de personnel. Bon, et finalement, ils ont dû ouvrir des lits portes, hein, des lits intermédiaires dans des conditions catastrophes à l'hôpital du Mans, alors que le PSM de la Sarthe est en banlieue. Donc la députée Élise Leboucher, France Insoumise NUPES de la Sarthe, a publié une tribune le 17 février 2024 dans le comment ça se prononce,
bon sang, Huffington, non, quelque chose comme ça.
Voilà, quelque chose comme ça. Bon,
bref, Post, oui.
Nous on n'a pas
Huffington Post.
Bon, on s'y connaît pas. Allez hop. La tribune est la psychiatrie est un service de soins, pas un régime de surveillance. Tribune. Résoudre le problème de la psychiatrie exige de rompre avec l'approche répressive au moment où 6 enfants sur 10 souffrent de troubles psychiques. Rappelons-nous des priorités. Il est urgent d'accompagner et de soigner plutôt que de surveiller et punir. Tribune. Chaque drame impliquant une personne souffrant de troubles psychiques éclaire les carences du système de soins psychiatriques en France. Un nombre conséquent de voix s'élève pour réclamer des mesures de surveillance accrues à contre-courant des besoins réels des services hospitaliers. À droite toute, les fossoyeurs de l'hôpital public, qu'ils soient macronistes, Darmanin, issus des Républicains, Jean-François Copé, se sont lancés dans un concours Lépine de propositions les plus répressives au mépris des libertés fondamentales des individus. La psychiatrie souffre de toutes les carences que l'on peut imaginer et défendre une vision sécuritaire, ce n'est pas avoir l'ambition de répondre aux vrais problèmes. Aussi, soyons clairs, la sécurité passe par la santé. Une vision sécuritaire, lorsqu'elle est défendue par le RN ou bien par d'anciens sarkozistes, voulant achever le projet ultralibéral de leur mentor, ne surprend guère. Néanmoins, dans son entrevue avec le Huffington Post, Sandrine Rousseau, avec qui nous partageons de nombreux combats, défend une position comparable. Car il est vrai que Sandrine Rousseau, qui dirige la mission sur les urgences psychiatrie, a pris publiquement, cela prouve qu'elle ne connaît pas le secteur psychiatrique, hein, qu'elle n'est pas compétente, a pris publiquement des positions gestionnaires. Mmh. Des positions purement simplement gestionnaires. Donc Élise Leboucher, qui travaille en psychiatrie, alors que la pédopsychiatrie est sinistrée, bien, parle en connaissance de cause, là où Sandrine Rousseau n'est pas compétente. Donc nous ne la suspectons de rien, et elle pourra préciser ses propos dans le cadre de la mission qu'elle présentera à l'Assemblée. Toutefois, nous en appelons à toute la gauche humaniste et sollicite sa vigilance, afin qu'elle ne tombe pas dans les mêmes écueils que les chantres du tout sécuritaire. Comment interpréter une proposition qui vise l'intervention des forces de l'ordre au domicile des patients suspectés d'avoir cessé leur traitement ?
Oui, ça arrive.
Mais bon, bien. Alors même qu'ils ne sont coupables de rien. Tout d'abord, un peu de vérité. Une mesure d'hospitalisation sans consentement peut être demandée par les proches des patients ou bien exigée par les préfets à l'endroit des personnes dont les troubles mentaux décident des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Alors que signifierait une intervention des forces de l'ordre a priori ? Est-ce à dire que les patients sont constamment coupables d'être malades et de ce fait constamment suspects de faits qu'ils n'ont pas encore commis ? Cela relève du roman d'anticipation et non de l'état de droit. Alors cette demande que les flics puissent que la police puisse intervenir au domicile même des patients en cas d'arrêt des traitements, ça nous renvoie aux travaux parlementaires pour la réforme de l'irresponsabilité pénale basée sur l'assassinat de Madame Sarah Halimi. La réforme de 2022.
Ah oui.
Ben oui. C'est, parce que au fond, c'est toujours la même chose. On pense aux criminels fous dangereux. c'est au passage à l'acte criminel. Et de là, cela, cette préoccupation vient retentir sur l'ensemble des personnes concernées par les soins sans consentement, et même l'ensemble des personnes psychiatrisées tout court. Donc, mais enfin, voilà. Alors, puis, précisons qu'en France, 10 millions de personnes sont touchées par des problèmes psychiques. La plupart ont 7 fois plus de risques d'être victimes d'une agression. Alors que Santé publique France pointe la surreprésentation des personnes atteintes de troubles psychiatriques dans nos prisons, sans que l'enfermement soit du moindre secours, au contraire d'ailleurs, la criminalisation doit cesser. Un parcours d'accompagnement complet à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital est la seule façon de prévenir efficacement des passages à l'acte dangereux. C'est-à-dire, bon, l'amont, la balle, hein, toujours la même chose. Par ailleurs, les drames de ces derniers mois démontrent l'inefficacité des dispositifs de surveillance déjà mis en place. À l'image du fichier OpsyWeb, ce dispositif, donc le fichage systématique avec croisement avec le fichier terrorisme des personnes en soins sans consentement, avec une durée de conservation des données de 3 ans. Ce dispositif déjà contestable permet de recouper en permanence la liste des patients faisant l'objet de mesures d'hospitalisation sans consentement et la liste des personnes fichées S. Cela nous interroge sur la boussole dont la République doit se doter, un régime de surveillance généralisée pour répondre au manque de moyens, au détriment des libertés fondamentales, et cela, cette boussole n'a pas à nous guider. Au contraire, il faut garantir un parcours d'accompagnement complet à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital, seule façon de prévenir les passages à l'acte dangereux pour les patients et pour la société. Le parcours de soins et rien d'autre. Illustration d'une situation catastrophique, la Sarthe a perdu 1000 lits d'hospitalisation en 25 ans, à vitesse constante, 190 dans la dernière décennie, 42 en 2003. Depuis des mois, nous multiplions les acteurs, les auditions des acteurs de la psychiatrie. Aucun ne demande plus de mesures de sécurité, tous demandent plus de moyens. Non, pas nous. Nous, on ne demande pas plus de moyens. On n'a pas plus de moyens. Ça, je lui ai précisé dans le fait de boycotter la proposition d'audition qu'elle nous a faite. Nous ne demandons pas plus de moyens. Nous disons qu'il y a énormément de fonds qui sont consacrés à la psychiatrie publique, mais que c'est mal réparti. Trop de gens sont chronicisés. Mais bon... C'est légitime, et pourtant, faut-il rappeler que le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale n'aborde pas la psychiatrie. Ça, c'est pas exact. C'est abordé à la légère, à la va-vite. Enfin, pour être exact, les débats n'ayant pas eu lieu à coup de 49-3, on peut pas tout à fait le savoir. Mais bon, puisque à l'ensemble des différents volets du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le gouvernement a opposé un 49-3. Donc bon. Donc, faut-il rappeler que le bouquet législatif du groupe Insoumis n'a pas été étudié du fait des 49-3 en série, alors que Gabriel Attal, face de la santé mentale, sa grande cause, relève du cynisme. Dans sa déclaration de politique générale, il n'annonce rien si ce n'est la réforme d'un gadget, mon soutien psy, et l'augmentation salariale des infirmières scolaires, une augmentation due depuis de longues années. Il faut de toute urgence revenir à la psychiatrie de secteur. Tout cela n'est pas à la hauteur des enjeux. Afin de garantir un parcours d'accompagnement complet, il faut de toute urgence revenir à la psychiatrie de secteur. Cela signifie de sanctuariser les financements des structures de soins, les EPSM bien sûr, mais aussi les structures du médico-social, assurant la continuité du soin et du lien. Ces dernières sont prisonnières des logiques d'appel à projet, dont dépend une part toujours plus grande de leur budget. La question des appels à projet, c'est très important. Une situation impossible qui a profondément affaibli le maillage territorial et nuit chaque jour au bon suivi des patients. Pilier du projet de LFI, c'est tout un filet de protection médico-sociale qu'il s'agit de retisser autour des patients, du logement au travail, de l'école à l'accès au lien social et à l'entraide. Et à l'entraide. À l'entraide, ben, là, on voit que les problématiques d'entraide entre pairs sont la dernière roue du carrosse. C'est ça qui nous a posé problème. Mmh. C'est une des raisons pour lesquelles, personnellement, j'ai dit, écoutez, on n'est pas concerné. Résoudre le problème de la psychiatrie exige de rompre avec l'approche répressive. Au moment où 6 enfants sur 10 souffrent de troubles psychiques et au moment où la pédopsychiatrie est en souffrance, là où elle n'a pas disparu, rappelons-nous des priorités. Il est urgent d'accompagner et soigner plutôt que surveiller et punir. Voilà une boussole sérieuse nous permettant de faire mieux. Et cette tribune est co-signée par une quinzaine de députés LFI NUPES. Alors, revenir à la psychiatrie de secteur, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Et là, on voit l'approche syndicale de la préservation des acquis ou du retour aux acquis, du retour au statut quo ante, sans se rendre compte que c'est l'avenir qui a été ouvert par la révolution libérale, cette révolution qui ravage la planète, enfin qui ravage notre partie, la partie où nous sommes de la planète, et que c'est au regard de cette nouvelle donne qu'il faut se situer. C'est-à-dire, comme d'habitude, cette logique est une logique passéiste et pas une logique qui regarde en avant. Et pour nous, du côté des droits des psychiatrisés, ça bloque les issues. Ça bloque les issues. En effet, si, moi, c'est ce que je leur ai dit dans les tribunes que j'ai envoyées, enfin les contributions, on réclamait, quand on considère, alors Cercle Fondamental fait ce même raisonnement, quand on considère la globalité des coûts directs de la psychiatrie, au moins 20 milliards d'euros par an, et des coûts indirects, on se rend compte qu'une partie très importante de la population psychiatrisée est rejetée dans les marges, cantonnée dans une inutilité médiquée absolument insupportable, et qu'on ferait mieux de rendre de la dynamique à une partie de cette population et dire vous réintégrez l'emploi par le bénévolat ou par un autre biais, mais vous développez vos compétences. Vous développez librement des techniques pour aller mieux. Mais ça, ils n'en veulent pas.
Oui.
Ça, ils n'en veulent pas. Pourquoi ? Parce que ce volant de plus en plus important de gens casematés dans le handicap, renvoyés dans la maladie, chronicisés, ça fait de l'emploi.
Oui,
bon,
oui,
voilà. Eh bien, cette logique, c'est une logique mortifère.
Tout à fait.
Et de ce côté-là, au fond, on ne peut que la contester.
Oui. Et nous ne baissons pas les bras, puisque se créent dans différents endroits, des groupes démocratie. Alors, par exemple, comment nos handicaps, nos folies, nos expériences avec la médecine sont aussi des sujets politiques ? Venons explorer ces thématiques et ainsi peut-être expliquer des sujets parmi les plus absents de nos politisations. Individualisme, pathologisation, travaillisme, capitalisme industriel, création de la norme, voilà autant de sujets que nous pourrions toucher du doigt juste en parlant de votre grand-mère qui est allée voir le médecin pour un rhume. À un moment de co-témoignage et de partage de savoir, suivi selon les besoins de petits visionnages et ou de lectures collectives pour alimenter nos imaginaires. Et ça se passe à 18h. Ça s'est passé à 18h le samedi 10 février à Montreuil. Et il y a aussi ce soir à Montreuil, donc une porte ouverte donc de ce groupe démocratie qui donc Montreuil, c'est en garde-fou 81 rue Michelet, donc ce soir à partir de 18h. Et ainsi se termine l'entonnoir. Merci André et nous vous disons à la semaine prochaine. Et nous passons à l'émission un rayon de soleil, une émission de Radio Libertaire Méditerranée. Alors, dans quelques minutes. Baby, someday I'll soon be home.